Dans le livre de l'Ecclésiaste, nous allons lire au chapitre 5 quelques versets, à partir du verset 1er. Ecclésiaste, chapitre 5 et verset 1er. J'ai hésité entre plusieurs titres pour cette méditation et je me suis dit dans le fond que celui-ci était peut-être celui qui était le plus inspirant. Tous les cas, je le souhaite. Et puis, on va rester évidemment sur cette idée que, en 2015 et au début de l'année, vous avez fait des vœux, vous avez souhaité, vous avez espéré certaines choses. Évidemment, espérer que ça se réalise. Alors, on va continuer sur cette lancée encore pendant quelque temps. Nous sommes nés pour servir. Ecclésiaste chapitre 5, verset 1er. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Amen. J'aime beaucoup ce genre de texte parce que il transparaît, rien qu'à la lecture de ces quelques versets, l'amour de Dieu. C'est comme si Dieu nous disait, écoute, si tu n'es pas sûr de toi, ne le fais pas, ce n'est pas grave. C'est un peu ce qu'on pourrait dire à quelqu'un d'ailleurs. Si tu n'es pas bien sûr de toi, ne prends pas de grands engagements, ce n'est pas grave. Prends le temps. Et quelquefois, la précipitation fait qu'on se rate. Et évidemment, c'est pas toujours bon, c'est pas toujours agréable. Il y a des proverbes parmi tant d'autres, mais certains proverbes que vous connaissez certainement bien. Et l'un de ces proverbes dit ceci: un train peut en cacher un autre. Et vous allez voir au travers des textes que l'on va lire que quelquefois une décision peut en entraîner une autre. Et c'est pas toujours favorable, c'est pas toujours bon. Sauf, et nous terminerons sur un point très positif, il se peut qu'une de nos décisions entraîne une décision encore meilleure derrière. Et c'est là-dessus que nous allons nous pencher, bien évidemment. Un autre proverbe dit ceci: c'est plus facile à dire qu'à faire. J'ai bien aimé ce dessin. Quelqu'un a imagé la construction de l'Europe. Et il se dit, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que dans la réalité, on voit toutes les complexités, tous les problèmes qu'il y a. C'est quand même pas évident. Et c'est aussi représenté par ce dessin, la légende disait comment faire le tour du monde, bien préparer son tour du monde. Et la conclusion, c'était que c'est plus facile à dire qu'à faire. D'ailleurs, certains experts ont imaginé que si on voulait partir, faire le tour du monde et mettre dans un sac à dos tout ce que l'on juge essentiel aujourd'hui pour notre survie, on partirait au moins avec 15 kilos sur le dos. 15 kilos, pas de nourriture, hein, parce que ça, c'est tous les jours que vous le prendriez, mais c'est genre téléphone, tablette, machin, etc. Tout ce que l'on juge important, capital aujourd'hui. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, et malheureusement, on se rend compte que c'est plus facile à faire un vœu à Dieu qu'à l'accomplir. C'est plus facile à dire à Dieu, à partir d'aujourd'hui, je change, plutôt que de le manifester concrètement. Dans le livre des Proverbes, vous avez quelques sentences, quelques préceptes qui rejoignent un petit peu cela. Au chapitre 20, par exemple, il est dit ceci: « C'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » J'aimerais quand même vous dire que s'engager avec Dieu, c'est le meilleur choix, de toutes les façons. C'est quand même le meilleur choix. C'est le meilleur choix. Mais il demeure, évidemment, le choix le plus exigeant. Aujourd'hui, il paraît que, finalement, les promesses n'engagent pas forcément ceux qui les disent, mais engagent ceux qui y croient. Parce que après tout, on promet, et puis il y a toujours un événement qui fait que la promesse est caduque, elle tombe à l'eau. Il y a des événements, il y a des circonstances qui font que on ne peut plus vous promettre la même chose. Et on est dans un monde de promesses quand même, où ça nous fait courir vers l'avant d'ailleurs, ça nous fait avancer. Pas très sûr que ce soit très fiable bien souvent. Le choix de Dieu, c'est le plus exigeant, c'est sûr, mais c'est bien évidemment parce que c'est celui qui rapporte le plus. Qui rapporte le plus moralement et qui rapporte le plus spirituellement. Quand on est près de Dieu, Dieu est là près de nous, en toutes circonstances. Et il faut reconnaître qu'il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres. Hier après-midi, lorsque nous étions à ce service d'obsèques à Marignane, c'est affreux, c'est difficilement supportable. Vous perdez un fils, mort si brutalement, accident comme ça, on part au travail et puis on est renversé et puis on meurt. Quelle tragédie, le téléphone sonne et on vous annonce que vous n'avez plus de fils, il est mort. Et tous les projets, tout ce qu'il y a derrière. Et puis plusieurs personnes de la famille ont voulu prendre la parole, un cousin a voulu prendre la parole. Et ce cousin est croyant lui aussi. Et ce cousin s'est souvenu des bons moments passés en famille avec ses cousins, avec ses cousines. Et puis à un moment donné, les trois sœurs sont venues et l'une d'entre elles a lu un texte en rapport avec leur frère. Mais c'était touchant, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il y avait beaucoup d'émotions, bien évidemment, dans ces moments-là. Mais je me disais aussi, quelle paix, quelle force se dégageait de ces moments-là. Ça ne veut pas dire parce qu'on est bien pendant qu'on sera bien après. Évidemment, on a besoin que Dieu renouvelle sa grâce et sa force au quotidien, bien évidemment. Mais pour avoir accompagné, pour avoir assisté malheureusement énormément de familles dans des moments comme ça, je peux vous dire qu'il y a quand même une différence entre quelqu'un qui passera par un moment d'épreuve avec Dieu à ses côtés et quelqu'un qui passera par un moment d'épreuve tout seul. Parce qu'il ne connaît pas Dieu, parce qu'il n'y croit pas, parce qu'il ne lui fait pas confiance, parce qu'il doute de ce qu'il pourrait accomplir, faire, etc. Je vous assure, la différence, elle n'est pas dans la tête, elle est dans les faits, ça se voit, c'est concret. Le choix de Dieu, c'est quand même le meilleur, parce que la vie est faite de haut et de bas, et il y a des moments difficiles, évidemment. Maintenant, il y a un avantage à s'engager avec Dieu, il y a un avantage. C'est qu'on peut se tromper, quelquefois. Vous vous êtes engagé avec certaines personnes et vous les avez déçues, elles ne vous l'ont jamais pardonné. Comme quoi, avec certains, on n'a pas l'avantage d'avoir le droit de se tromper. Mais avec Dieu, on a le droit de se tromper. Ce n'est pas dramatique, parce que si on se trompe, Dieu peut pardonner. Si on se trompe, Dieu peut donner une deuxième chance, et même une troisième, et même une quatrième. Un texte du Nouveau Testament dit ceci, « Cette fois, le juste tombe, et Dieu le relève toujours. » Derrière ce chiffre 7, d'ailleurs, il y a le chiffre de la perfection. 7, pas 8, 7. Il y a le chiffre de la perfection. Et Dieu peut agir d'une façon accomplie, parfaite, dans chacune de nos vies, dans chacune de nos actions. Il est évident aussi que Dieu est un Dieu qui n'est pas tolérant, mais il est compatissant. C'est bien meilleur d'ailleurs. La tolérance, c'est à variable, c'est à géométrie variable. Tandis que la compassion, ça n'a pas de bord, c'est infini. La compassion, ça va très loin. Dieu n'est pas tolérant, Dieu est compatissant. Dieu est compatissant. Je crois que Dieu n'acceptera jamais le faux pour le vrai. Quelquefois, on a avalé des couleuvres et elles étaient grosses, elles étaient longues. Et on a dit, bon, je préfère me taire, je préfère rien dire, je préfère faire comme si c'était vrai, puisque ça lui fait plaisir, puisque... Non, Dieu n'accepte pas le faux pour le vrai et il ne se contentera pas du minimum, ça c'est sûr, mais ces choix que l'on prend vis-à-vis de lui, elles nous rendent meilleurs. Si vous faites des choix pour Dieu, ce sont vos choix qui vous rendront meilleurs. D'ailleurs, ça a été dit ce matin, vous l'avez entendu, quand on réalise qu'on est insuffisant, qu'on voudrait faire plus, qu'on voudrait être meilleur, quand on aimerait au moins un peu de reconnaissance pour soi, pour dire « j'ai pas raté, je me suis pas trompé, j'ai réussi quand même », on est limité. Parce que notre corps est limité, parce que notre intelligence est limitée, mais Dieu peut mettre sa main Dieu peut donner un coup de pouce et c'est là que ça change. C'est là que ça change véritablement. Deux textes du Nouveau Testament, je vous les cite simplement. Ce sont dans des lettres que l'apôtre Paul va rédiger et envoyer à différentes églises, à différents croyants. L'une d'entre elles dira ceci, il l'enverra aux Thessaloniciens. Il dira ceci, « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité, l'amour de chacun de vous tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. » Aujourd'hui, dans beaucoup de magazines, de reportages, vous avez le témoignage de personnes qui vous disent « Ils voulaient la paix, ils vivent la guerre. » L'actualité nous rattrape. Et aujourd'hui, le Japon est en émoi parce que visiblement, un de leurs journalistes a été tué. Et la maman était interrogée en pleurs. Et elle disait « Mais mon fils n'a jamais travaillé toute sa vie que pour la paix. Il a été sur des terrains de guerre. » Pour parler de la guerre, pour militer pour la paix. Mais ça n'a pas suffi. Il est mort maintenant. Donc, aujourd'hui, on aimerait vivre dans la paix, de la paix. Et Dieu dit, eh bien, votre foi augmente. Et votre amour les uns pour les autres augmente également. Et c'était une œuvre de paix qui s'accomplissait. Dans sa lettre à Timothée, dans la première de ces deux lettres qu'il enverra, il dira ceci à Timothée. Occupe-toi de ces choses de la foi. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même, persévère dans ces choses. Alors j'ai choisi des exemples, et vous allez comprendre pourquoi je vous disais qu'un train pouvait en cacher un autre, et que c'est plus facile quelquefois à dire qu'à faire. J'ai hésité, mais c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ce titre m'apparaissait bien plus à propos. J'ai hésité entre « Né pour servir » ou, excusez du peu, « La double peine ». Aujourd'hui, quand ça a été en discussion pendant longtemps d'ailleurs, la double peine, quand certains ont été condamnés, ils ont été condamnés à une double peine parce que du fait de ce qu'ils ont fait, soit ils ont été expatriés, expulsés, soit, et beaucoup ont considéré ça comme une double peine. Et quelquefois, il y a la peine de ce que l'on a fait et la peine qu'il faudra subir et vivre toute sa vie durant. Une double peine. Mais je crois qu'il y a aussi une double bénédiction dans nos choix. Donc tout dépend de nos choix, tout dépend de ce que l'on va faire. Et j'insiste... Prendre garde, comme le disait l'Ecclésiaste, quand tu entres dans la maison de Dieu, quand tu te présentes devant Dieu, ne prends pas un engagement sacré à la légère, ne dis pas « je vais faire ceci, je vais faire cela » devant Dieu, si tu n'es pas prêt à vouloir véritablement le faire. Après, quant à la capacité, il ne faut pas s'inquiéter, parce que devant Dieu, j'insiste, il peut nous arriver de nous tromper, mais Dieu nous donnera la possibilité de recommencer. Et de refaire. Deux textes qui sont très proches d'ailleurs dans le livre de la Genèse. Le premier, je pense que vous avez entendu parler d'eux, il s'agit du couple Adam et Ève. Vous connaissez ? Pourquoi ça vous fait sourire ? Vous les connaissez, oui ? Adam et Ève, premiers hommes et femmes de la terre. Ce couple qui a été placé par Dieu dans le jardin, jardin d'Éden, formidable, avec une mission assez simple. S'occuper du jardin, garder le jardin et le cultiver. Ça semblait peut-être faisable. Bon, même si on n'a pas la main verte, on apprend. Hein. Donc ça devait être relativement faisable. Et puis tout à coup, chapitre 3, il nous est dit qu'ils ont été éprouvés, ils ont été tentés. Mais rien d'exceptionnel jusque-là. Sauf que quand on lit le texte, on s'aperçoit qu'ils ont été tentés par le serpent, dont l'Écriture dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit, et c'est dit au singulier, de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Je suis étonné quand on fait par exemple une recherche internet et que vous tapez Adam et Ève, vous tombez sur énormément de dessins naïfs. Énormément de dessins naïfs. C'est pour ça que j'ai intitulé la première attitude d'Adam et Ève de naïve, malgré tout. Alors je sais que dans l'art, le naïf, c'est un courant, bien évidemment, et on retrouve cela, mais derrière la naïveté, il y a une forme de candeur, il y a une forme d'insouciance, peut-être d'immaturité. En tous les cas, on ne voit pas le danger venir. Un train peut en cacher un autre. On ne voit pas le danger venir. Et qu'est-ce qui se passe ? Adam et Ève, tout va bien. Et puis, voilà que quelqu'un vient les perturber dans leur quotidien qui était assez tranquille. C'est le diable. Le serpent, Satan, et qui vient les tenter. Et il commence par les tenter, c'est assez surprenant, par un mensonge total. Dieu a-t-il réellement dit que vous n'avez pas le droit de manger des fruits, des arbres du jardin ? Lui, il a tout englobé. Hein. Dieu avait dit, vous mangez de tout. Et le diable dit, est-ce que c'est vrai que Dieu a dit que vous n'avez le droit de rien manger ? Vous imaginez quand même l'approche qui... C'est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Sauf que c'est tellement insidieux qu'ils se sont fait piéger. Voilà que Ève se met à discuter en disant « Mais non, t'es pas au courant, on a le droit de tout faire. Non, tu t'es trompé, hein. Ah, t'as une mauvaise information. Hein. En fait, la vérité, c'est pas ça. On a le droit de manger de tous les arbres du jardin. Il y en a à peine un seul que Dieu nous a demandé d'éviter. » Le diable voulait arriver là, bien évidemment. Il n'était pas né de la dernière pluie, il était plus malin qu'il ne l'imaginait Adam et Ève, et que Ève ne pouvait l'imaginer. Donc il va lui dire, ah d'accord, je comprends, cet arbre-là, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vous raconte ça parce qu'aujourd'hui encore, si on interroge les gens dans la rue, et on demande à tout le monde, quel fruit Ève et Adam ont mangé, tout le monde va vous dire une pomme. D'ailleurs, elle est restée coincée en travers. On l'a tous, hein, les hommes l'ont tous, hein. Cette pomme d'Adam, c'est une pomme, mais c'est pas vrai. On vous a menti, c'est un fruit, on ne sait pas lequel. Mais voyez comme c'est rentré carrément dans le mythe et dans le dessin naïf, quoi. Tout le monde est persuadé que c'est un conte, ça n'a jamais existé, c'est pas vrai. Mais si vous ne croyez pas que cette histoire a existé, je pense que vous allez changer d'avis à cause des conséquences, parce qu'un train en cache un autre. Et les conséquences, il ne s'agit pas de se mettre les mains devant les yeux en disant « Aujourd'hui, le monde est beau. » Parce que regardez le monde tel qu'il est. Il est loin d'être beau. Il est loin d'être idéal et on n'est pas dans un paradis. On n'y est pas. Le texte nous dit que le diable va tenter Adam et Ève en leur disant « Mais vous deviendrez comme lui, comme Dieu. » Connaissance du bien, du mal, l'air de dire « Si vous savez ce qui est bien, ce qui est mal, au moins vous pourrez faire que le bien. » Bizarrement, l'homme n'a fait quasiment que le mal. À croire que c'était piégeux tout de même, cette remarque. Et puis il insiste en disant, mais dans le fond, c'est une privation. Dieu vous a privé de quelque chose. En fait, vous n'êtes pas libre. Je suis étonné de me rendre compte que c'est après que l'homme ne sera plus libre. Jusqu'à présent, il l'était. Dites-moi, quand on a le choix, on est bien libre, non ? C'est quand vous n'avez plus de choix que vous n'êtes plus libre. Un train peut en cacher un autre. C'est quand vous n'avez plus le choix que vous n'êtes plus libre. Et Adam et Ève étaient libres. Et Ève était libre de dire à Satan, écoute, moi je ne sais pas trop qui tu es, mais ça me paraît bizarre que Dieu ait dit quelque chose et qu'en fait, il fallait faire autrement. Je vais aller lui demander. Elle aurait pu faire ça. Elle ne l'a pas fait. Elle a été séduite. Elle a vu que le fruit était agréable. Elle a vu qu'il était visiblement précieux pour ouvrir l'intelligence. Finalement, elle pensait qu'elle n'en savait pas assez, peut-être qu'elle en savait suffisamment. Le fait est qu'après, elle en saura trop. Hein. Vous avez des personnes comme ça, c'est très intriguant d'ailleurs, ils viennent vous raconter une histoire, mais ils ne vous disent pas tout. Vous savez, ils vous en disent juste un peu, juste pour, tac, vous amorcer là. Et puis après, ils disent, non, mais je ne peux pas t'en parler. Hein. Et là, vous dites, ah non, t'en as trop dit ou pas assez hein. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout quand même. Hein. Certains sont comme ça. Et là, finalement, le diable en a trop dit, mais pas assez pour Ève. Donc, elle va manger de ce fruit pour voir les effets que ça allait produire. Manifestement, physiquement, ça n'a rien produit. Ils n'ont pas été foudroyés. Pourtant, Dieu avait dit, le jour où vous en mangez, vous allez mourir. Mais manifestement, ils ne sont pas morts. Ça, c'est un peu embêtant quand même. Sauf que le texte dit que quelques moments après, Dieu vient à leur rencontre dans le jardin. Et bizarrement, c'est la première fois de leur vie que ça leur arrive. Ils se cachent quand ils entendent la voix de Dieu. On appelle ça la culpabilité. Ouais. Parce que tout à coup, ils ont réalisé qu'ils ont fait quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire. Alors, ils se cachent. Mais comment vous voulez vous cacher de Dieu ? En fait, vous allez vous cacher derrière un arbre, mais de toute façon, il est devant et derrière. Donc, où que vous soyez, il vous verra. Ça ne sert à rien. Et Dieu va tout de suite comprendre, il savait, bien évidemment. Et il va leur dire, écoutez, pourquoi avez-vous fait cela ? Qui t'a dit que tu étais nu ? Parce que Adam et Ève ont réclamé leur nudité en disant, on s'est caché parce que voilà, on est tout nu, mais jusqu'à présent, ça ne te gênait pas. Qui t'a dit cela ? Et les conséquences sont terribles quand même. En fait, ils avaient le meilleur. Ils étaient dans un jardin de délices. C'est l'interprétation, la traduction du mot Éden. Dans un jardin de délices. Ils avaient le meilleur et ils ont été vers une expérience totalement inconnue. Ils ont été vers une expérience, totalement inconnue par pure naïveté. Et la conséquence, c'est qu'ils vont être totalement rejetés. Dieu va refuser cette attitude-là. Il ne va pas l'accepter. Je vous ai dit qu'avec Dieu, on pouvait se tromper et revenir. Mais à un moment donné, si vous franchissez la ligne, c'est irrécupérable. Et ce n'est pas de la faute de Dieu. Le texte dit ceci, Dieu va s'adresser au serpent, il va le maudire. Et Dieu va s'adresser à l'homme. Et il va lui dire... Il va s'adresser tout d'abord à la femme. « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. » Ça n'aurait jamais dû se passer comme ça, mesdames. « Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Ça n'avait jamais été indiqué, cette forme de domination, soumission. Il continue avec l'homme. « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras. » De la nourriture, c'est à force de peine que tu survivras tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, tu mangeras l'herbe des champs, la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et puis un peu plus loin, Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris, c'est ainsi qu'il chassa Adam et le mit à l'orient du jardin d'Éden. Les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie, l'empêcher de revenir. Terrible, de la vie à la mort, en un instant. Ils sont passés de la vie à la mort, en un instant. Ils sont passés de la grâce à la culpabilité, en un instant. De la communion au rejet. Un train pouvait en cacher un autre. Ils ont pensé que ce n'était pas grave. Je crois qu'il y a des choix qui peuvent nous amener très loin. Et je pense qu'on n'a pas le droit d'être naïf dans ce monde, et je suis persuadé que vous ne l'êtes pas. Et à plus forte raison, quand il y a des choix à faire, est-ce que je vais marcher avec Dieu ou est-ce que je ne marcherai pas avec Dieu ? Est-ce que je continue à marcher avec Dieu ou est-ce que j'arrête de marcher avec Dieu ? Ne soyons pas naïfs sous ce rapport du jugement, mais soyons intelligents et comprenons qu'il peut y avoir, bien évidemment, un risque selon le choix. Et puis on continue et on arrive aux enfants. Deux Cain, aux enfants d'Adam et Ève, Cain et Abel. C'est terrible, parce que Cain a été maladroit dans ce qu'il a fait. Et qui pouvait imaginer ça ? À cause de sa maladresse, il deviendra meurtrier. Ça paraît incroyable, totalement incroyable. Le texte le dit, est-ce qu'on peut regarder ça dans notre Bible ensemble ? C'est toujours Genèse chapitre 4. Il est dit ceci. Au verset 1er, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Cain, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Cain fut laboureur. Au bout de quelque temps, Cain fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient encore dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. C'est peut-être et sans doute une des histoires les plus tristes de la Bible. Deux frères ont grandi ensemble et à un moment donné, il y en a un qui va tuer l'autre. C'est terrible quand même. C'est terrible quand on entend parler de familles qui se sont brouillées. Vous avez des enfants qui ont grandi, qui ne se parlent plus. Vous avez les enfants qui ne parlent plus aux parents, les parents qui ne parlent plus aux enfants ou aux grands-parents, etc. Et tout à coup, vous ouvrez les albums de famille et vous ressortez les photos et vous dites, mais quel gâchis, c'était tellement bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Deux frères. On les imagine forcément, comme vous qui avez eu des enfants, jouer ensemble, s'amuser, rire ensemble, jouer peut-être à la guerre, aux cow-boys et aux indiens, je ne sais pas s'ils y pensaient à cette époque-là, mais voyez, jouer. Et puis un jour ou l'autre, arriver à un conflit tel, à un conflit si violent. La faute de Caïn, c'est qu'il n'a pas compris, il n'avait pas compris la notion du sacrifice. En fait, Caïn, lui, a apporté tout ce qu'il a pu récolter, les meilleurs fruits qu'il pouvait récolter. Il a présenté tout cela à Dieu et Dieu a dit « ça ne me convient pas, ça ne me plaît pas ». Abel, lui, il n'a pas fait grand-chose à comparer. Lui, il était berger. Donc, il a récupéré parmi son troupeau quelques agneaux qui étaient tout beaux, tout mignons. Il les a offerts en sacrifice et ça a plu à Dieu. Caïn n'avait pas compris la notion du sacrifice. Un sacrifice que Dieu avait déjà installé. Quand Adam et Ève ont péché et qu'ils se sont vus nus, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a sacrifié un animal et il a revêtu de cette peau de bête Adam et Ève et il marquait par là l'idée du sacrifice. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. On ne parle jamais de sacrifice humain dans la Bible. On ne parle que de sacrifice d'animaux, jamais de sacrifice humain. Donc là, quelque part, pour plaire à Dieu, il fallait sacrifier quelque chose. Mais Caïn n'a pas sacrifié, il a au contraire donné le meilleur de ce qu'il avait, le plus beau, le plus excellent. Et quelque part, la Bible nous dit que Caïn avait un esprit peut-être un petit peu imbu de sa personne, au-dessus peut-être des autres, il se voyait un petit peu au-dessus. Donc il a voulu comme prouver, voilà ce que j'ai réussi à cultiver, voilà ce que j'ai sorti de terre. Je pense que si vous me donnez une bêche et si vous me donnez des semis, de tout ce que vous voulez, petits pois, tomates, je ne sais pas comment elles vont sortir. Je ne suis pas persuadé que ça sortira bien, parce qu'il faut de l'entretien. Ça ne suffit pas de jeter en terre, j'imagine. Il faut de l'entretien pour que ça sorte et que ça pousse bien. Et moi, je serais incapable de faire ça. Lui savait visiblement bien faire. Et je note quand même, et c'est ça qui est important, c'est que Dieu va venir vers Caïn. Dieu n'est pas du genre à dire « Oh, ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas », et puis partir en claquant la porte. Dieu vient vers Caïn. Et il lui explique pourquoi ça ne va pas. Il lui explique pourquoi ça ne va pas. Quand vous lisez, d'ailleurs d'autres traductions beaucoup plus littérales le disent autrement, quand vous lisez ce que Dieu dit à Caïn, « Pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. » Dieu est en train de lui dire, « Écoute, je n'ai pas aimé ce que tu as fait, mais recommence. » Littéralement, c'est ça. Recommence, fais encore quelque chose, reviens vers moi autrement, reviens. Et en fait, Dieu n'est pas en train de juger Caïn en lui disant « j'aime pas définitivement ce que tu fais ». Il lui dit « ce que tu as fait, l'intention est bonne, mais voilà, c'est pas comme ça qu'il fallait le faire. Je vais te montrer comment il faut le faire, reviens autrement ». Et dans le fond, il avait la possibilité de revenir. C'est ça le texte, c'est exactement ça que le texte veut nous dire. Et c'est ce que Caïn n'a pas voulu faire En fait, Dieu a vu la bonne volonté et il l'encourage. Dieu va lui donner les outils pour réussir. Moi, je crois que Dieu laisse la libre entreprise. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a de l'espace pour s'exprimer. Il y a de l'espace pour vivre sa foi. On n'est pas cantonné, on n'est pas formaté. Chacun peut vivre sa foi avec, on va dire, une couleur bien différente. Dieu ouvre des espaces pour qu'on le glorifie. Aujourd'hui, ça s'est tellement démocratisé, on parle de tout le milieu artistique, et dans le milieu artistique, il y a eu énormément de choses qui se sont développées, de l'art pour glorifier Dieu, bien évidemment. Je me souviens du témoignage de cet homme qui était un grand sportif, Eric Liddell, et qui disait ceci: « Quand je cours, je veux être le meilleur, et en courant, je sens le plaisir de Dieu. » Il faisait ça pour glorifier Dieu. Ça peut paraître étonnant comme langage, mais Dieu nous a donné un corps pour s'exprimer, et on peut s'exprimer de tant de façons différentes. Et Dieu est en train de dire à Caïn: tu n'es pas ton frère, tu n'es pas comme Abel, tu n'as pas le même métier, tu ne fais pas comme lui, mais avec ce que tu es capable de faire, refais, reviens, je veux approuver ce que tu fais pour moi. Il y a de la libre entreprise, il y a du choix, il y a des possibilités. Ce qui est dommage, c'est que c'était certainement sans compter sur ce même ennemi qui avait troublé ses parents, ce même ennemi qui était toujours là, le diable est toujours là. Et dans le fond, Dieu va le prévenir en lui disant: si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Littéralement, l'ennemi est caché dans un fourré derrière toi et il attend qu'une chose: bondir et t'attraper à la gorge pour te tenir. Littéralement, c'est ça. Et quand Dieu dit « domine sur lui », une autre traduction dira « la faute, elle est tapie dans l'ombre, mais maîtrise-la, gouverne-la, maîtrise-la ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Caïn va passer par tout un tas de sentiments. J'ai noté l'amertume, on pourrait parler de la colère, de la violence, on pourrait parler du ressentiment, on pourrait parler également de la jalousie. Et on pourrait parler de l'envie de meurtre, mais entre le dire et le faire. Sauf que malheureusement, il l'a médité, il l'a fait. Un train peut en cacher un autre. Pauvre homme, il avait juste fait une erreur. Et le voilà accusé, aujourd'hui on dirait certainement d'homicide involontaire, sur le coup de la colère, sur le coup... On a du mal à imaginer de la préméditation quand même, quoique, allez savoir, il faudrait un procès pour ça. Mais pauvre homme, il s'est levé le matin... Il ne pensait pas qu'il tuerait de ses mains son propre frère dans la journée. Vous croyez qu'il y a pensé? Du mal à imaginer ça. Quelquefois, nos choix, on n'a pas le recul. Et on a pris une décision, on a fait un choix, et on ne voit pas qu'un autre train arrive. On ne voit pas que le deuxième, parce qu'on ne l'a pas vu arriver, il va faire des dégâts. Il va vraiment faire des dégâts. J'aimerais tellement vous encourager ce matin, en vous montrant que Dieu ne veut pas qu'on aille à des extrémités comme cela. D'ailleurs, quand Dieu va revenir vers Caïn, il y a cette phrase tellement célèbre: « Où est ton frère ?» Et Caïn de dire: « Mais suis-je le gardien de mon frère ?» Elle est connue, cette phrase. Et Dieu va lui dire: « Mais le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Qu'est-ce que tu as fait ?» Et voyez-vous, comme ses parents avaient été chassés de la présence de Dieu, la Bible dit que Caïn va être chassé à son tour. Et il va l'emmener un peu plus loin. Il va lui dire: quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Autant avec ses parents, ça allait être, il faudra suer, il faudra prendre beaucoup de temps et ça nécessitera de l'effort. Mais quand même, la terre produirait quelque chose. Malgré les épines et les ronces, là, il ne te produira plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Errant et vagabond sur la terre. D'ailleurs, ça a été tellement violent que Caïn va dire à l'Éternel: « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi, loin de ta face, et je serai errant et vagabond sur la terre. Mais quiconque me trouvera me tuera. » Et Dieu va quand même mettre un bémol. Il va mettre une marque sur cet homme pour qu'il ne soit pas tué, errant comme un vagabond. Mais c'est dommage quand même. Il était tellement bien. Regardez jusqu'où il a été. Alors je voulais terminer quand même sur une note bien plus positive, parce que c'est ce qui nous interpelle aussi. Quelqu'un a été fugitif, quelqu'un a été vagabond et errant un temps, et quelqu'un a été béni. Et cet homme, il s'appelle Onésime. C'est une lettre de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul va écrire à son ami Philémon. Et en écrivant à son ami Philémon, il va lui demander de lui faire un cadeau. Quel genre de cadeau ? Dans ses voyages et dans son emprisonnement, notamment à Rome, l'apôtre Paul va rencontrer quelqu'un qui s'appelle Onésime, qui est un esclave en fuite. Cet homme, Onésime, vivait dans la maison de Philémon et il s'est enfui. Pour quelle raison ? On ne sait pas véritablement. On pense qu'il l'a volé et donc il s'est enfui. À l'époque, sous la loi romaine, les esclaves, ça valait pas cher. Et malheur à l'esclave qui tombait entre les mains de son maître. Il avait le droit de le tuer sans autre forme de procès. Et donc Onésime a protégé sa vie. Donc il s'est enfui pour protéger sa vie. Et il va tomber sur l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul va lui annoncer l'évangile. Et cet homme va réaliser qu'il avait besoin de Dieu. Et il va donner son cœur à Dieu. C'est formidable. Il va donner sa vie à Dieu. C'est un criminel en fuite, c'est un bandit, c'est un voyou, c'est un mécréant, c'est un brigand qui s'enfuit. Et voilà que Dieu le pardonne. Dieu pardonne ses erreurs. Dieu pardonne ses fautes. Extraordinaire. Sauf que on peut être pardonné vis-à-vis de Dieu, mais pas forcément réconcilié avec les hommes. Et c'est là le problème. Alors, voilà que l'apôtre Paul va plaider, il va plaider la cause de cet homme auprès de son ami. Et voilà en quels termes il va aller lui dire. Bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ, prisonnier en prison à cause de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré dans la foi, étant dans les chaînes. Onésime, qui autrefois t'a été inutile. Vous avez compris que ce n'était pas le fils de l'apôtre Paul, mais fils dans la foi, il l'avait engendré à la foi. Il t'a été autrefois inutile, c'est le sens de son mot d'ailleurs, de son nom Onésime, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi, pour qu'il me serve à ta place. Pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile, toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi particulièrement et de toi, à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Je parlerai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Amen. Un train pouvait aussi en cacher un autre. Cet homme, Philémon, est en colère, mais Philémon va comprendre ce que signifie le pardon, la miséricorde, l'amour, la bonté, la paix et le salut. Tout ça pourquoi ? Parce qu'il y a eu une grâce extraordinaire, il y a eu une conversion. En fait, il a le choix. Il peut faire un vœu, Philémon, il peut dire, c'est mon esclave, il me doit quelque chose, il me paiera jusqu'au dernier euro tout ce qu'il me doit. Ou alors il dira, c'est mon esclave, je vais le faire payer. Il pouvait, mais il pouvait tout pardonner aussi. Il pouvait passer l'éponge. Il pouvait dire, allez, on fait grâce. Je suis persuadé qu'en faisant cela, il y a quelque chose qui a changé, non seulement dans le cœur de Philémon et dans le cœur d'Onésime. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, tout ce qu'il y a écrit à l'écran. Et ne le dites pas si vous ne voulez pas prier pour le faire. Mais par contre, si vous avez besoin de le faire parce que vous êtes en colère, vous avez de l'animosité, vous n'êtes pas en paix avec certains, je crois que c'est bien de le faire parce que les conséquences, quel témoignage. Vous imaginez dans la famille, dans l'environnement, l'esclave est revenu, il va passer un mauvais quart d'heure. Et puis on voit que l'esclave est honoré. C'est du jamais vu. C'était du jamais vu. Quel témoignage il pouvait rendre. Ça a été une victoire sur lui-même. Ça a été la défaite de son ennemi. Enfin, le diable a été défait. Le diable avait gagné sur Adam et Ève. Il avait gagné sur Caïn. Il n'a pas gagné sur Philémon, parce que Philémon a fait le bon choix. Je crois qu'on a tous la possibilité de faire ces choix-là. Nous sommes nés, bien-aimés, pour servir cette cause de l'Évangile, c'est-à-dire Dieu qui aime l'humanité, qui aime les hommes, qui veut les racheter, qui veut les sauver, qui veut leur donner véritablement la paix en tout temps et en toutes circonstances. Et le salut, ça nous accompagnera jusque dans l'éternité. Alors soyez bénis, bien-aimés, et souvenez-vous de cela, il n'y a aucun choix anodin, même le plus petit, parce qu'il y a toujours un train derrière, toujours quelque chose qui arrive derrière. Et si vous voulez faire le tour du monde, allez-y, mais dites-vous que c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Cependant, ce n'est pas impossible. Dieu peut quand même vous accompagner dans vos choix, faites les bons choix, et communiquez, soyez un instrument de paix, soyez un instrument de salut, et Dieu se servira encore de vous. Amen. On se lève ensemble et on invoque Dieu. Alléluia. Seigneur, merci de ta grâce, merci de ces moments, merci de ta bonté. Merci parce que tu veux encourager nos cœurs encore. Tu nous as dit que nous ne pouvions pas tout faire tout seuls. Et merci de nous l'avoir rappelé ce matin. Maintenant, nous voulons faire avec toi et nous voulons faire par ta grâce. Nous ne pourrons pas faire sans ton secours, sans ta bénédiction, mais nous croyons qu'avec toi, tout devient possible. Je prie que tu te manifestes, je prie que tu agisses et que tu sauves encore, que tu bénisses, que quelqu'un soit fortifié ce matin en se rappelant qu'il a fait le bon choix, qu'il a pris la bonne décision et que même si ça n'a pas été une réussite totale, tu l'invites à recommencer et tu vas lui montrer comment faire. Merci de l'aider dans ses choix, dans cette direction-là. Accompagne-le, révèle-toi totalement à lui, à elle et parle à son cœur. Merci pour le peuple de Dieu qui a cherché à te louer ce matin, et nous l'avons fait avec joie, et nous l'avons fait avec bonheur. Accompagne-nous dans ta paix, bénis encore le reste de cette journée, qu'elle soit toute à ta gloire, au nom de Jésus. Amen.